Enfant, Hassan et moi grimpions au peuplier de l'allée qui menait à la maison de mon père et, munis d'un fragment de miroir, nous ennuyions nos voisins en réfléchissant sur eux la lumière du soleil. Assis l'un en face de l'autre sur de hautes branches, les pieds nus ballant dans le vide et les poches remplies de mûres séchées et de noix, nous jouions à les éblouir chacun à notre tour, tout en mangeant nos fruits et en nous les lançant à la figure entre deux éclats de rire. Je revois encore Hassan, perché dans un arbre, et son visage presque parfaitement rond moucheté de taches lumineuses par le soleil qui perçait à travers le feuillage. Un visage semblable à celui d'une poupée chinoise sculptée dans du bois dur, avec un nez plat et large, et des yeux bridés étroits comme des feuilles de bambou qui, selon la lumière, paraissaient tantôt dorés, tantôt verts, tantôt même couleur saphir. Je me rappelle ses petites oreilles basses et son menton pointu, appendice de chair dont on eût dit qu'il avait été ajouté après réflexion. Et puis son bec de lièvre, légèrement décalé à gauche, comme si le burin du sculpteur avait dérapé ou que l'artiste, fatigué, eût prêté moins d'attention à son ouvrage. Parfois, je persuadais Hassan de bombarder de noix le berger allemand borgne de notre voisin. Il s'y opposait systématiquement, mais quand j'insistais vraiment, il finissait par céder. Hassan me cédait toujours en tout. Et avec son lance-pierre, il était redoutable. Son père, Ali, se mettait en colère lorsqu'il nous surprenait, enfin, autant que le pouvait un homme d'une telle gentillesse. Il nous menaçait du doigt, nous faisait signe de redescendre et nous confisquait le miroir en nous répétant ce que sa mère lui assénait autrefois, à savoir que le diable aussi s'en servait pour aveugler les gens, en particulier les musulmans durant la prière. « Et il rit en même temps », concluait-il avec un regard sévère à l'intention de son fils. « Oui, père », marmonnait Hassan, les yeux baissés. Jamais il ne me dénonçait cependant. Jamais il ne révélait que l'idée du miroir, tout comme celle de jeter des noix sur le chien, venait de moi. L'allée de briques rouges qu'encadraient les peupliers conduisait à un portail en fer forgé et se poursuivait, une fois franchis les deux battants de ce dernier, jusqu'à notre maison, située à gauche du chemin. Le jardin, lui, était au bout. Chacun s'accordait à penser que mon père, mon baba, avait fait construire la plus belle demeure du district de Wazir Akbar Khan, un quartier riche et récent du nord de Kaboul. Certains étaient même d'avis qu'il n'y en avait pas de plus belle dans toute la ville. Un large passage flanqué de rosiers donnait accès à cette bâtisse aux innombrables pièces en marbre pourvues de grandes fenêtres. Des mosaïques complexes, sélectionnées avec soin par Baba à Ispahan, ornaient le sol des quatre salles de bain, tandis que des tapisseries tramées de fils d'or, achetées à Calcutta, recouvraient les murs. Un lustre en cristal pendait du plafond en voûte. À l'étage se trouvaient ma chambre et celle de Baba, ainsi que son bureau, également connu sous le nom de fumoir, où flottait en permanence une odeur de tabac et de cannelle. Après qu'Ali avait fini de servir le dîner, Baba et ses amis s'installaient sur des fauteuils en cuir noir pour bourrer leurs pipes, sauf Baba, qui engraissait la sienne, selon ses propres termes, et discutait de leurs trois sujets favoris, la politique, les affaires et le football. Je sollicitais parfois la permission de me joindre à eux, mais mon père me barrait toujours le chemin sur le seuil de la pièce. « File maintenant », m'ordonnait-il. « C'est l'heure des grands. Pourquoi tu ne vas pas lire un de tes livres ?» Il fermait ensuite la porte, me laissant m'interroger sur les raisons qui faisaient que, avec lui, c'était toujours l'heure des grands. Je m'asseyais alors par terre, les genoux ramenés contre la poitrine, et il m'arrivait de rester ainsi un long moment à écouter leurs rires et leurs conversations. Dans le salon, au rez-de-chaussée, des vitrines montées sur mesure s'alignaient le long d'un mur incurvé. À l'intérieur étaient exposées des photos de familles encadrées. L'une d'elles, vieille et au grain épais, montrait mon grand-père en compagnie du roi Nader Shah, en 1931, 2 ans avant l'assassinat de celui-ci. Beauté et le fusil en bandoulière, tous deux posaient devant un cerf mort. Il y avait aussi une photo de mes parents prise le soir de leur mariage, sur laquelle Baba apparaissait fringant dans son costume noir et ma mère semblable à une jeune princesse souriante vêtue de blanc. S'y ajoutait un cliché de mon père et de son meilleur ami et associé, Rahim Khan, debout devant notre maison, aussi sérieux l'un que l'autre. Je suis le bébé que Baba tient dans ses bras avec un air fatigué et sévère. Lui me porte, mais c'est le petit doigt de Rahim que serre mon poing. Le mur incurvé conduisait à la salle à manger, au centre de laquelle trônait une table en acajou d'une longueur telle qu'une trentaine d'invités pouvaient y prendre place sans problème, ce qui, considérant le goût de mon père pour les soirées dispendieuses, se produisait presque chaque semaine. Enfin, au fond de la pièce, se dressait une imposante cheminée de marbre, constamment illuminée par la lueur orangée d'un feu de bois en hiver. Une large porte vitrée coulissante permettait ensuite d'accéder à une terrasse semi-circulaire ouvrant sur les centaures de terrain qu'occupaient le jardin et les rangées de cerisiers. Baba et Ali avaient planté un petit potager le long du mur est, avec des tomates, de la menthe, des poivrons et un rang de maïs qui n'avait jamais vraiment poussé. Hassan et moi avions baptisé cet endroit le mur du maïs mal en point. À l'extrémité sud du jardin, un effilié du Japon ombrageait la maison des domestiques, une modeste hutte en pisé dans laquelle Hassan logeait avec son père. C'était là, dans cette cabane, qu'il avait vu le jour au cours de l'hiver 1964, un peu plus d'un an après que ma mère fut morte en me donnant naissance. Je n'ai mis les pieds chez eux que deux ou trois fois durant les 18 années où j'ai habité cette propriété. Quand le soleil s'abaissait derrière les collines, Hassan et moi cessions nos jeux et nous nous séparions. Je longeais les rosiers pour regagner la somptueuse demeure de Baba, tandis que lui se dirigeait vers la masure dans laquelle il était né et avait vécu toute sa vie. Je me rappelle son intérieur austère, propre et faiblement éclairé par deux lampes à pétrole. Deux matelas se faisaient face de part et d'autre de la pièce, avec au milieu un tapis élimé à motif errati dont les bords s'effilochaient et, dans le coin où Hassan dessinait, un tabouret à trois pieds et une table en bois. Les murs étaient nus, à l'exception d'une unique tapisserie brodée de perles formant les mots « Allahu Akbar »,« Dieu est grand ». Baba l'avait acheté pour Ali lors de l'un de ses voyages à Mashhad. C'était dans cette hutte que la mère d'Hassan, Sana Oubar, avait accouché par une froide journée de cet hiver 1964. Si la mienne était morte des suites d'une hémorragie, Sana Oubar avait choisi, elle, de laisser son fils orphelin moins d'une semaine après sa naissance en l'abandonnant au profit d'un sort que la plupart des Afghans jugent pire que la mort. Elle s'était enfuie avec une troupe itinérante de chanteurs et de danseurs. Hassan ne parlait pas de Sana Oubar, faisait comme si elle n'avait jamais existé. Je me suis toujours demandé s'il rêvait d'elle, de son visage, de l'endroit où elle se trouvait, s'il aspirait à la rencontrer. Son absence lui pesait-elle autant qu'à moi celle de ma mère? Un jour que nous nous rendions à pied au cinéma Zainab, où passait un nouveau film iranien, nous avons coupé par les baraquements militaires situés près du collège Istiklal. Baba nous avait interdit d'emprunter ce raccourci, mais il était alors au Pakistan avec Rahim Khan. Nous avons sauté par-dessus la barrière saignant les casernes, franchi un petit ruisseau et débouché sur le terrain vague où de vieux tanks abandonnés prenaient la poussière. Quelques soldats s'étaient serrés à l'ombre de l'une de ces carcasses pour fumer et jouer aux cartes. L'un d'eux nous aperçut, décocha un coup de coude à son voisin et interpella Hassan. « Et toi là-bas ? Je te connais !» Nous n'avions jamais vu cet homme trapu au crâne rasé qui affichait une barbe noire de quelques jours. Son sourire goguenard m'effraya. « Ne t'arrête pas, » murmurai-je à Hassan. « Et toi, le Hazara, regarde-moi quand je te cause !» aboya le soldat. Il tendit sa cigarette au type à côté de lui et forma un rond avec son pouce et son index. Puis il enfonça le majeur de son autre main au milieu. Il l'enfonça et le ressortit. L'enfonça et le ressortit encore. « J'ai fréquenté ta mère, tu le savais ça ?»